Chapitre 5. Que Théodora ait été dans sa jeunesse l'infâme prostituée dont nous avons esquissé le portrait d'après Procope, ou que sa naissance obscure et sa vie retirée et donnée prise par l'ignorance même où chacun en était à toutes les calomnies d'un analyste secret, on est embarrassé de décider. L'axiome de droit, testis unus, testis nullus, a aussi son autorité en histoire. Et quel est ce témoin unique qui dépose contre Théodora? Un écrivain, tour à tour historiographe et pamphlétaire du même règne, apologiste hyperbolique et détracteur passionné, selon qu'il veut obtenir des bienfaits ou se venger de ses disgrâces. Quelle crédibilité accorder à l'homme qui, après avoir rendu justice à l'empereur dans la guerre des Perses, dans la guerre des Vandales, dans la guerre des Goths, et après avoir écrit le livre des édifices pour glorifier Justinien, a écrit l'histoire secrète pour le vouer à l'exécration, qui, après avoir dit « Justinien est le père de ses sujets, le modèle des souverains, tout est divin en lui, c'est un ange envoyé du ciel pour le salut de l'Empire et de l'humanité », que sont auprès de ses victoires les jeux d'enfants de Thémistocle et de Cyrus, déclare que ce même Justinien a commis tous les forfaits, ruiné l'Empire, détruit la puissance romaine, l'appelle âne, le compare à Domitien, affirme enfin que c'est un démon sous la forme humaine et entreprend sérieusement de le prouver. La palinodie a paru si prodigieuse que plusieurs critiques du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle et d'une autre même, ne pouvant croire à cet excès d'impudence, ont conjecturé que Procope n'est pas l'auteur de l'histoire secrète. Bien qu'ils aient invoqué à l'appui de cette opinion des arguments assez sérieux, le témoignage de Nicéphore Calliste et de Suidas fait foi, et il reste établi que les guerres, les édifices et les anecdotas sont du même écrivain. Cette chronique scandaleuse n'est point d'ailleurs beaucoup plus digne de créance. L'histoire amoureuse des Gaules, les libelles contre Marie-Antoinette, les mémoires du comte de Vielcastel n'ont rien d'apocryphe. On ne s'avisera pas cependant de les citer comme autorité. Quand Procope en arrive à parler de Théodora impératrice, on peut consulter sans risque l'histoire secrète, car on est à même d'y démêler le vrai et le faux, en la conférant avec les autres ouvrages de Procope, les écrits des auteurs ecclésiastiques, les chroniques de la Byzantine. Si l'on oppose ainsi aux assertions de Procope pamphlétaire, celles de Procope historien et celles des chroniqueurs, on surprend nombre de fois l'auteur de l'histoire secrète en flagrant délit d'imposture. Sans doute, il ne ment pas toujours. Bien des faits qu'il raconte sont rapportés par Malala, par Théophane, par la chronique pascale. Il exagère, il amplifie, il dénature, mais il y a souvent un fond d'exactitude dans son histoire. Malheureusement, pour ce qui regarde son récit des premières années de Théodora, on manque de tout élément sérieux de contrôle, puisque les rares témoignages qu'on peut opposer à celui de Procope émanent d'écrivains d'une époque très postérieure, qui sont par conséquent sans grande autorité. Le pseudo-Gordien dit que Théodora était d'origine patricienne de l'illustre famille Anicia. Voilà pour détruire la légende de la funambule. Zonard et Nicéphore Calliste disent que Théodora est née dans l'île de Chypre. Voilà pour détruire la légende du cirque des Verts, à moins d'admettre ce qui est possible qu'Acacios, le père de Théodora, vint de Chypre à Constantinople et y devint gardien de cirque. L'auteur anonyme des Antiquités de Constantinople dit que l'impératrice fit élever l'église de Saint-Pantalémon sur l'emplacement d'une humble demeure où elle avait vécu naguère du pénible métier de fileuse de laine. Voilà pour détruire la légende de la courtisane, à moins d'admettre ce qui est également possible qu'à son retour de la Pentapole, où elle s'était fait oublier du monde galant de Byzance, Théodora vécut quelques années à Constantinople dans la retraite et le travail. Ces témoignages sont donc de peu de poids. D'autre part, si, comme nous l'avons dit, on doit reconnaître la véracité relative de Procope dans la partie de l'histoire secrète qui concerne le règne de Justinien, comment admettre que les pages qui relatent la jeunesse de Théodora soient de pure invention? C'est là, au point de vue critique, la seule raison, et elle a bien sa valeur, qui puisse faire tenir pour véridique les récits de Procope sur les débauches de la future impératrice. Quant à l'argument de Gibbon, que ces accusations sont trop invraisemblables pour qu'on ait pu les inventer, il est assurément plus spécieux que solide. À défaut de témoignages certains, il reste du moins des présomptions contre la véracité de Procope. S'il est vrai que Théodora ait été la ville prostituée dont le renom infâme était tel qu'on se détournait dans les rues pour la fuir, comment admettre que Justinien, sénateur, comte des gardes et visant à la pourpre, ait osé prendre publiquement cette femme pour maîtresse, la faire créer patrice et enfin l'épouser? N'était-ce pas jouer sa popularité, se compromettre dans le Sénat, perdre le trône? Comment admettre encore que pas un cri de dégoût, pas une protestation indignée n'ait accueilli cette étrange union? À la vérité, Procope nous dit que l'impératrice Euphémie s'y opposa tant qu'elle vécut. Mais un contemporain, le moine Théophile, qui rapporte que la mère de Justinien n'y voulait pas non plus consentir, nous apprend la cause de son refus. C'est parce qu'un magicien lui avait prédit que cette femme, qui était belle, très habile, très instruite et d'un caractère dominateur, serait la Démonodora de Justinien et de l'Empire. Il s'agissait donc non d'une réprobation du passé de Théodora, mais de crainte sur sa conduite future. Procope prétend qu'il fallut que Justin abrogeât la loi de Constantin, défendant les mariages entre sénateurs et comédiennes pour que Justinien pût épouser Théodora. Or, il semble certain que l'abrogation de cette loi doit être restituée à Justinien et qu'elle est de 10 années postérieures au mariage de Théodora. N'y a-t-il pas à s'étonner aussi que, le jour de la révolte des Nicates, la populace, qui prodiguait toutes les invectives à Justinien, n'ait pas ramassé quelque injure immonde dans la vie passée de l'impératrice pour la jeter à la face de son époux? N'est-il pas surprenant, enfin, qu'aucun chroniqueur byzantin ne parle de la jeunesse de Théodora, et, plus surprenant encore, que les écrivains ecclésiastiques, les Cyrilles, les Pélages, les Évagres, les Victor de Thunes, les Libérats, les Anastases, les Nicéphore Calliste, tous si hostiles à l'hérétique ennemie du concile de Chalcédoine, ne fassent point intervenir parmi leurs malédictions les souvenirs de cette abominable renommée qui avait empli Constantinople ?